Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Résiste, prouve que tu existes.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé.
Salut à toutes, salut à tous, les Cyprinettes vous guettent, une émission féministe sur Radio Larzac, avec de vrais bouts de femmes à l'intérieur. Marie-Jeanne à la technique, salut Marie-Jeanne.
Bonjour les filles.
Et Chloé en co-animatrice, salut Chloé.
Salut Mimi.
Alors pour cette première, Chloé, de quoi vas-tu nous causer ?
Eh bien pour cette première émission, moi j'ai prévu de vous briser les clichés. Alors ça, pour moi, ça commence par une bonne piqûre de rappel. Combien de fois t'as pas entendu, je sais pas toi, mais en tout cas moi, des femmes, des sœurs, des copines dire « Je suis pas féministe, hein, mais quand même mais c'est toujours, tu sais, la petite précaution oratoire avant d'essayer de l'ouvrir sur certains sujets. Et alors, pourquoi ? Parce que hystérique, extrémiste, frustré, anti-homme, comment ça se dit ça déjà ? Anti-homme ?
Misandre.
Ah ouais, c'est ça. Mais tout ça, c'est ce que j'entends à chaque fois que j'ose dire « Salut, je suis féministe !» Alors, pour commencer, un petit cours d'histoire salutaire. C'est quoi le féminisme et ça vient d'où ? Donc, pour mieux comprendre le féminisme d'aujourd'hui, on va peut-être faire un retour sur les combats d'hier. Bienvenue dans la page des belles histoires de Tata Chloé. Mmh. Donc, le féminisme, c'est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Donc le féminisme a pour objectif d'abolir dans tous ces domaines les inégalités hommes-droits dont les femmes sont les principales victimes et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la sphère privée. Merci Wikipédia. Bon, ça va pour l'instant, tout le monde est d'accord ? Ça vous va ?
Ouais.
Sur la définition ? Ok.
Vas-y, continue Chloé. Enfin, tata Chloé.
Bon alors, concrètement, comment ça se passe tout ça ? Déjà, ce mouvement, il est vachement plus vieux que tout ce qu'on croit généralement. Parce que même si le mot féminisme apparaît seulement au 19e siècle, les historiens, ils s'accordent pour situer l'émergence des idées de libération de la femme en Europe dès le siècle des Lumières. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, notamment de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a été rédigé en 1791 par une certaine Olympe de Gouges. Ça vous parle ?
Le nom me parle.
Oui, moi aussi, le nom me parle, mais après...
Mais je ne sais plus pourquoi.
Et bien donc, c'est cette Olympe de Gouges qui a rédigé les premiers textes qui reconnaissaient, en Europe en tout cas, qui reconnaissaient la place de la femme dans la société.
Merci Olympe.
De Gouges.
Après, je n'ai pas dit que ça a été accepté. En oui. tout cas, elle a rédigé, mmh. ce qui est déjà pas mal. Donc ça, c'était dans la première vague féminisme, dès 1791 jusqu'au 19e siècle. On va passer très rapidement aujourd'hui, on ne va pas aller dans le détail. Et c'est l'objectif de cette première vague, donc, c'était de réformer les institutions. Ça s'axait vachement plus là-dessus. L'idée, c'était que les hommes et les femmes, ils deviennent égaux devant la loi. Donc c'était quand même super révolutionnaire pour l'époque, parce qu'il y avait la demande du droit à l'éducation, au travail, à l'indépendance financière... Le droit de vote pour les femmes, en 1791, elle demandait le droit de vote pour les femmes. Mais il faudra attendre l'émergence de la deuxième vague féministe en 1960, avec la création du MLF, ça parle à tout le monde ça.
Oui, bon. Le mouvement de libération de la femme.
Ouais. En 1960, pour que toutes ces revendications qui ont été énoncées par Olympe de Gouges, elles prennent effet. Alors pour se rendre compte, on va se rappeler que les femmes, elles ont accédé à l'indépendance financière que depuis 1965. Cette année, ça fait à peine 50 ans en France que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation signée d'un mari, d'un frère, d'un père ou de tout autre couillu.
C'est très bien dit.
Bah ouais, mais bon, qu'on se le dise.
Bon après, cette deuxième vague aussi, c'est pareil, je la détaillerai peut-être dans, plus dans d'autres émissions, parce que c'est large, il y a plein de combats, plein de trucs à parler. Puis après, on en arrive en 1990, où là, il y a la troisième vague féministe qui a vu le jour, et c'est celle dans laquelle on se trouve toujours aujourd'hui. Et alors celle-là, par contre, c'est Mimi qui va vous en arroser de cette vague-là. Hein. Donc maintenant que vous savez tous à peu près d'où vient le féminisme, rapidement, et depuis combien de temps les femmes se battent en France et en Europe pour les quelques petits droits dont on jouit aujourd'hui en France, on va arrêter de nous dire, arrêter de vous dire qu'on doit être bien contente et arrêter de nous plaindre. Alors non, tout n'est pas rose encore dans notre bocal sociétal aseptisé. Et les violences faites aux femmes, ça continue, aujourd'hui encore. Alors je vais peut-être sembler moraliste, mais c'est grâce au combat d'hier, où des gens ont osé remettre en question ces rôles qui étaient attribués à chacun, qu'on peut aujourd'hui dire qu'on lâchera rien.
But illegitimately to a heart most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun.
Executed. The pure romance was undisputed. Angelic loves and holy ones. Angelic loves and holy tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears.
Beautiful boys. no more those beautiful boys, no more those beautiful boys.
Quand ma mère m'a raconté l'examen, cette fameuse mammographie, j'avais 12 ans. Elle m'a dit que c'était un homme qui lui avait fait passer l'examen. Et elle m'a raconté. J'ai senti dans ses mots la douleur qu'elle a pu ressentir. C'était il y a 18 ans. Mais punaise, rien que d'y penser, j'en ai mal au sein. Pendant l'examen, ton nichon est tiré, aplati, violenté. Je crois que je ne serai jamais capable de faire cette mammographie. Il y a quelques jours, avec ma mère, on en a reparlé. Et elle m'a dit « J'ai 60 ans, j'ai pas envie de me faire un bilan médical. Si j'ai une saloperie au sein, tant pis. » Et j'accepte son choix. Ma tante, qui a 10 ans de moins que ma mère, a eu un cancer du sein, il y a 8 ans. Elle sentait une grosseur sur un de ses seins. Elle a donc décidé d'aller faire un contrôle. À ce moment, elle ne pensait pas être malade. Quand ce fameux contrôle prend un peu plus de temps, qu'un toubib vient et puis qu'il dit « Bon, va falloir refaire d'autres examens » et repart aussi sec, d'une froideur des plus polaires. Ma tante, qui est là, qui attend, qui ne se sent pas malade, qui ne souffre pas de maux. Quelque temps plus tard, c'est diagnostiqué. Il est bien là, ce crabe. Ok, toute la famille est présente, solidaire. Ma tante et son mec décident de se raser le crâne, une chose qu'il n'emportera pas avec lui. Pour le coup, ils ont bien dansé avec leurs démons ces deux-là. J'ai jamais eu l'occasion d'en recoser avec ma tante. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou. Il serait peut-être temps d'en chaper un peu avec elle.
Ah bah ça, ça a été un peu la gifle, puisque j'allais faire une radio de contrôle, une mammographie, puisque mon âge veut qu'on fasse des mammographies régulièrement. Et puis bon, j'y allais pas vraiment avec appréhension, je veux pas vraiment de problème au sein. Et donc, ben voilà. Et puis, c'est Agnès, une copine qui est manipulatrice, qui faisait les radios, qui est partie avec les radios, puis qui est revenue, qui m'a dit « Ah, mais il faut en refaire un autre sur le côté droit, les clichés sont pas très bons », mais je la sentais un peu fébrile, bon, je me suis dit « Tiens ». Et puis après, ben, elle m'a dit « Il faut que tu ailles voir la radiologue qui était là ». Et la radiologue m'a tout de suite dit ben, « Il y a un problème au sein droit ». Donc elle m'a très vite dit des choses et tout. Puis bon, elle m'a expliqué parce qu'il y avait des petites calcifications, il y en avait trop. Donc c'était le signe sûrement de quelque chose et que il fallait que j'aille voir un spécialiste. Donc il fallait faire assez vite et tout. Et puis le soir, je devais aller écouter le Brame du Cerf, d'ailleurs avec Agnès, la manipulatrice. Et du coup, je suis allée au Brame du Cerf en me disant, bon voilà, c'était prévu, je vais pas changer. J'avais vraiment expliqué à Thierry que j'avais un problème, mais bon, comme je savais pas le caractère de l'importance, du coup, bon, voilà. Donc je suis allée. Et puis... j'ai fait une crise de foi comme j'avais fait quand j'étais enfant, c'est-à-dire que je me suis aperçue quand même ça m'avait drôlement contrariée, mais que je voulais pas le voir. Donc j'étais malade là-haut sur le plateau d'Ambel, là. Je suis revenue malade. Mais bon, j'ai fait une crise de foi quoi. Mais comme quand j'étais petite, ça m'a fait un peu drôle de faire ça. Voilà, après tout s'est enchaîné très vite. Je suis allée voir très vite, j'ai eu un rendez-vous avec un spécialiste sur Valande qu'on m'avait conseillé, dans une clinique privée, bien sûr. Et puis lui, il a regardé mes radios, il m'a regardé les seins, ça se voyait pas, il n'y a rien qui se voyait de toute façon. Bon, c'est pas comme une tumeur, il y en a qui ont des petites boules, moi j'avais rien du tout, enfin je sentais rien. Et donc très vite, alors lui il m'a débité le discours qu'il doit faire à toutes les femmes qu'il voit, puisqu'il voit pratiquement que des femmes là. Donc un peu sans âme, un peu à me dire, voilà, vous avez 30% d'œufs, 40% d'œufs et 30% de cancer bien avancé et tout ça. Voilà. Bon, il me débitait un peu ça comme ça. C'est vrai que sur le coup, ça fait un peu drôle. Et puis après, ben, très vite, j'ai une opération. Ils m'ont enlevé des carottes. Alors là, ça a été très épique parce que, en fait, comme ça ne se voit pas, ils m'ont fait une radio et ils m'ont mis des petits fils métalliques pour repérer les zones malades. Donc après, pour pouvoir que le chirurgien enlève autour de ces fils. Donc voilà. Et c'est vrai que là, ça a été... J'ai failli me trouver mal quand ils m'ont fait la radio et qu'ils enfilaient. Les fils, on ne le sent pas. Ils font des petits trucs d'anesthésie, mais on ne le sent pas. Ils enfoncent les fils et dans la bonne direction. Enfin, voilà, le plus près possible des zones malades. Donc au lieu d'y passer une demi-heure, il y a passé une heure et demie. Mais bon, il a été... C'est vraiment le radiologue qui me l'a fait sur la... Sa clinique Pasteur était vraiment un gars très sympa, très gentil. Alors lui, par contre, était beaucoup plus humain, beaucoup plus à l'écoute des gens, en parlant. D'ailleurs, il n'était pas d'origine française, donc je me dis que bon, voilà. Et puis après, j'ai eu une opération donc, où ils m'ont enlevé des carottes, des zones malades. Et puis là, ils ont fait des analyses. Le chirurgien m'avait dit, bon, bah, écoutez, on se revoit sous 6-7 jours. Puis 6-7 jours, quand je suis arrivée, il m'a dit, bon, je ne vais pas vous leurrez, vous avez des cellules cancéreuses, donc et suffisamment pour qu'on fasse une ablation du sein. Donc là, ben voilà, c'est difficile de réaliser qu'on va avoir un sein en moins, d'autant plus que j'étais assez fière de ma poitrine, qui se tenait encore pas trop mal. Et puis très vite, donc il propose de très vite opérer, donc tout se passe très vite et donc il faut prendre des décisions vite. Et puis il m'a proposé de me faire de la chirurgie réparatrice en même temps. Et puis bah oui, alors comme c'est un peu difficile d'accepter de ne pas avoir un sein en moins, c'est vrai que c'est difficile. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. En même temps, je savais que je faisais des allergies à tous les plastiques, enfin voilà, tous les corps étrangers, donc. Bon, j'avais déjà eu des petits trucs avec des fulles de Calgut, voilà. Donc, je lui avais dit, mais est-ce que je vais supporter ? Donc, il m'avait dit qu'en effet, il y avait 30% de personnes qui ne supportaient pas les implants mammaires. Voilà, donc bon, alors tout ça s'est fait un peu vite, chirurgie, voilà. Et puis, il m'a mis cet implant. Et puis, en fait, pendant un jour, ça allait bien. Et 48 heures après l'opération, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Ce n'est pas une sonde, c'est du drain. Il coulait beaucoup de la lymphe. Donc, je faisais un peu du rejet. Puis, bon, alors là, ça a été difficile. Parce que dans les chambres de cet hôpital, enfin de cette clinique, j'étais dans une chambre à deux lits et il y avait une autre personne à côté de moi qui avait fait un cancer du sein, qui s'était généralisé et qui avait des problèmes de cancer des os. Enfin bon voilà, je sais que c'est la phase finale des cancers des seins qui dégénèrent. Donc j'étais à côté d'elle et moi avec mon petit truc là, je disais, pour moi c'était pas le petit truc à ce moment-là parce que après j'ai su que le cancer que j'avais était un cancer assez bénin. Mais elle, de la voir, puis en plus, c'est une personne qui était très gentille, donc on a beaucoup discuté, mais vraiment, moi qui n'allais pas bien à côté, c'était très difficile, bon, voilà. Et bah, y a plein de choses qui traversent la tête à ce moment-là, mon père qui a fait un cancer à 48 ans, enfin, qui est mort du cancer à 48 ans, et puis voilà, on est bien portant, et puis tout d'un coup, on se dit qu'on a un cancer. C'est un peu le cataclysme, et c'est vrai qu'il faut prendre des résolutions vite, parce que plus on s'est opéré à temps, moins le cancer se propage. Et donc, en fait, en même temps que l'opération, ils enlèvent les ganglions sentinelles sous le bras. Et ils les analysent, et s'il y a des cellules cancéreuses, ça veut dire que le cancer risque d'être allé un peu plus loin. Donc, bon, ben moi, j'en avais pas, j'avais rien, donc voilà, donc c'est vrai que c'était pas allé plus loin, ça avait été pris assez tôt. C'était un coup de chance parce que, du fait d'avoir ça, après, j'en ai parlé à pas mal de gens en disant, j'avais un petit souci de santé, je me suis pas cachée d'avoir eu un problème de santé. et d'avoir un cancer du sein. Et puis du coup, j'ai des copines qui ont commencé à me dire, bah, moi aussi j'ai eu un cancer du sein. Donc en fait, finalement, on découvre qu'il y a quand même pas mal de femmes autour de soi qui en ont eu, et on s'est un peu entraidées mutuellement, et échangées sur ce qu'on pouvait ressentir. Bah, la clinique, ils te parlent d'une psychologue, mais il y a une psychologue pour je ne sais pas combien de personnes. Et puis, c'était pas forcément le moment. Enfin bon, voilà, je crois qu'il y a des moments où il y a des choses... on peut pas vraiment... Bon, en fait, d'échanger sur ce qu'on ressentait, finalement, je trouvais que c'était bien d'en parler plutôt avec des femmes qui... Oui. Après l'opération, j'ai eu un faux sein pendant un mois et demi. Et puis après, j'ai fini par faire un rejet. Donc, la veille de Noël, bing, boum, il m'a enlevé la prothèse. Et puis moi, j'ai dit que c'était bon. Enfin, ça suffisait, quoi. C'était... Genre, je voulais rien d'autre, de toute façon c'était pas la peine, et parce qu'ils me reproposaient quelque chose des mois après et tout. Bon, faut savoir que dans les cliniques privées, ils sont en dépassement d'honoraires et qu'ils demandent de l'argent pour faire les opérations. Donc après on se pose plein de questions, est-ce qu'ils font les choses à bon escient avec quand même, ou alors est-ce que c'est une histoire d'argent et qu'ils veulent faire le plus d'argent possible. Enfin, j'ai eu quand même 3 opérations. À chaque fois, en alignant 300, 400 euros de dépassement d'honoraires. Donc, après, moi, j'aime bien être pas loin de la famille et que les gens puissent m'entourer plutôt que d'être très loin et que de me retrouver toute seule à l'hôpital. Et je pense que c'est un peu problématique. Voilà. Ça aurait été plus problématique pour moi. Du fait que vous m'ayez entourée, mes enfants, mon mari... Étonnamment, mon mari n'a pas du tout, a pas mal réagi, mais bon, lui-même, il avait eu sa mère qui avait eu un cancer du sein, donc du coup, qui avait une ablation d'un sein, donc pour lui, ça n'a pas été du tout questionnant, voilà, il l'a complètement accepté. Voilà. Après, moi, ça a mis très longtemps à ce que j'accepte ne plus avoir un sein, d'être difforme, d'être moins féminine, d'être... ça j'ai mis un an et demi, 2 ans peut-être à avoir moins de complexes, de me mettre en maillot de bain. Et alors j'ai un maillot de bain qui me plaque les seins contre l'autre sein contre la poitrine, donc ça se voit pas trop. Mais au début, je m'enroulais dans la serviette, je la posais au bord de l'eau et puis je ressentais comme ça avec la serviette. Ça se voit maintenant, c'est beaucoup moins un problème. Et bien oui, j'ai une collègue de boulot qui a été arrêtée, ça fait un an maintenant. Et j'ai la peine à l'appeler au téléphone pour lui demander de ses nouvelles. Je pense que c'est difficile peut-être de reparler, de cancer, c'est pas si évident. Non, mais j'en reparle plus autant que j'en ai parlé au départ, ça c'est sûr. Je faisais un parallèle avec dans le travail que je fais, je rencontre beaucoup de familles, de personnes en souffrance, avec des histoires pas possibles familiales. Et je me disais, c'est vrai que moi, dans ma vie, j'aime bien faire autre chose avec des gens qui vont bien, parce que pour pouvoir un peu me poser.
Moi, quand j'ai su que tu m'as appelé pour me dire que tu avais un cancer du sein, ça faisait 3 mois que j'avais une douleur dans le sein droit. Et quand tu m'as dit ça, je t'en ai parlé, puis toi tu m'as dit « Oh, ça peut pas être un cancer on le sent pas ». Mais bon, moi, quand je t'ai vu après, je t'ai montré, tu m'as dit, c'est là, c'est à cet endroit-là, sur le côté du sein, que moi, j'ai... Enfin, je sais pas, c'est à cet endroit-là qu'ils avaient vérifié pour toi. Et moi, c'est là que j'avais mal. Et du coup, je me souviens que moi, j'ai eu mal à cet endroit-là, tout le long, pendant toutes tes opérations. Et que après ton opération, j'ai plus eu de cette douleur. Alors voilà, bon, c'est questionnant, hein, n'est-ce pas, sur le lien mère-fille à distance. On pourrait faire une étude sur le paranormal. Voilà, et je sais que, en tant que fille, ça m'avait secoué, quoi. Parce que d'envisager que sa maman malade et puis un cancer, ça fait toujours très peur, quoi. Et je crois ce qui m'avait, moi, le plus impressionné, c'était de te voir très très fatiguée. Je me souviens que tu tout d'un coup, hop, oui, tu te mettais les mains dans les bras et puis la tête dans les bras, tu dis je suis un petit coup de fatigue. Et moi ça me faisait très très peur tout d'un coup de te voir comme ça. Et...
Oui, mais c'était plus le rejet de la. C'était le rejet de l'implantation qui faisait que j'étais malade, que l'opération en elle-même.
Oui, mais comme quoi, de voir ses parents ou sa mère en état de faiblesse, ben voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose?
Je vais te demander, quand elle t'a appelé, comment t'as réagi? Parce que moi, j'ai fondu en larmes et j'allais pas bien du tout, quoi. Enfin, alors qu'elle m'avait dit que c'était a priori pas très grave, que c'était pris à temps, que tout, voilà, mais... Rien que d'entendre les mots, bah, j'ai un cancer, que c'est ta maman et tout, bah, tu te rends compte, tout d'un coup ça allait, et puis tout d'un coup tu vas plus bien du tout. Ouais.
Alors c'est rigolo qu'on en arrive à faire ce petit interview pour arriver à en parler toutes les trois, parce que finalement on n'en a jamais parlé vraiment véritablement.
Alors le témoignage que nous venons d'entendre est tiré de l'émission Dégenrée, l'émission féministe pour déranger. Émission sur une radio à Grenoble qui s'appelle Radio Kaléidoscope. Je vous invite à écouter la totalité de l'émission qui est très intéressante et vous la trouverez en téléchargement sur radiorageuse.net. Et puis aussi, si dans votre entourage vous avez des personnes qui ont eu un cancer du sein, je crois que c'est important de ne pas faire un sujet tabou et d'en parler librement.
D'ailleurs, en parlant de sujet tabou, d'en parler librement, le dépistage généralisé. En ce moment, il y a une grosse polémique à ce sujet. Du coup, moi, ça m'intéressait un petit peu, donc j'ai creusé sur le sujet. Et je suis tombée sur un article qui se base sur une étude norvégienne. Et cette étude, elle nous dit que le dépistage généralisé du cancer du sein, ça permettrait de réduire la mortalité due à cette maladie de 10% seulement. Or, toutes les politiques actuelles du dépistage généralisé, ça se base sur les chiffres de l'OMS qui, lui, en tire 30% de guérison. Mais du coup, selon cet article, c'est un excellent article de Florence Hemburger dans le magazine La Recherche, c'est parce que l'OMS ne prend pas en compte dans ses statistiques les guérisons dues au progrès de la science. Du coup, bon, même si tous ces chiffres-là s'apprêtent à discuter, on a dit qu'on s'embarrassait pas de tabou, mais il ne faut pas quand même nier que le dépistage a permis de sauver de nombreuses vies. En tout cas, je vous invite à lire cet article qui est très documenté sur le site http://www.larecherche-point-fr/actualité/cancer-du-sein-dépistage-et-il-efficace. Ouh, ça y est, j'ai réussi.
Tu fais vraiment confiance à nos auditeurs hein, pour retenir.
Ouais, bon, vous tapez cancer du sein est-il efficace et c'est un article de La Recherche.
Non, mais peut-être on mettra, parce qu'on risque de faire un groupe, les Cyprinettes vous guettent sur Facebook. Donc peut-être on pourra mettre en lien toutes nos sources.
Ça sera plus simple. Comme ça, ce sera plus simple
pour nos auditrices et nos auditeurs. Ouais.
Et pour moi.
Et pour toi, Chloé, oui.
Mais voilà, du coup, moi, je voulais parler un petit peu de ça parce qu'en ce moment, non seulement ce que tu as parlé avant, puis il y a la belle rose.
Et oui,
qui se passe
dans les rues de Millau, il y a des petits parapluies roses.
Ouais.
Un gros coup médiatique pour faire du fric, à mon avis. Enfin,
moi, je veux bien les récupérer, ceci dit, après. Hein,
les parapluies, ils ont l'air super.
Ouais. Alors après, pourquoi un parapluie?
Parce que ça a la forme d'un sein, c'est un petit peu gonflé, peut-être,
ouais.
Je sais pas.
Pour se protéger du cancer, ça rebondit dessus, peut-être.
Ouais,
ça peut. Au moins, je pense que ça a le mérite d'en parler, de faire parler. Mais bon, après...
Ben ouais, mais le dépistage, comme je disais, au niveau de l'examen, c'est hyper douloureux, quoi. Enfin, ce que je disais tout à l'heure hors antenne, c'est que je pense que si le dépistage des testicules était autant douloureux qu'une mammographie, à mon avis, ils auraient trouvé des moyens moins douloureux pour le faire. Enfin, c'est vraiment, c'est pas une simple radio, quoi. C'est voilà. Bon, après, je sais pas comment se passe le cancer, le dépistage des testicules, mais je ne sais pas si
il faudrait qu'on se renseigne.
Il faudrait qu'on se renseigne,
c'est
ouais.
aussi douloureux ou alors si pour ces messieurs, il y a un moyen plus plus doux que pour nous.
Voilà, coup, c'est l'heure de Juliette, c'est ça?
C'est ça, ouais.
C'est qui Juliette?
Noureddine.
sol sur une marche d'escalier. J'ai 10 ans demain matin et je m'ennuie. Je regarde le grand tapis de l'entrée et j'imagine un Paris contre lui. C'est un long fleuve de laine rouge et noire, dans le noir des serpents, des aliens, scolopendres, salamandres, des pitons gluants qui bougent. Mais danger à côté, faut pas tomber dans le rouge. Brûlé, heureusement pour traverser, il y a un pont. C'est le jaune comme une passerelle de bambou, sans jamais toucher la lave en fusion. Ni tomber dans les reptiles noirs et mous. Faudrait que j'arrive à passer jusqu'au bout. Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de zoo. Des soldats de Napoléon. Adieu les sales poupées, les jupes et les jupons. La perpétuelle punition, la cruelle contrefaçon, l'erreur de fabrication. Maintenant, assez parlé, faut y aller. Et sur la pointe des pieds, je me lance, l'œil rivé sur le chemin concentré. Les deux bras en balancier dans la danse. Attention, par là ça grouille de cobras et de rats. Il faudrait que je me débrouille pour sauter sur ce guet. Ça va être périlleux, mais hop là, Indiana Jones ferait pas beaucoup mieux que moi. Je reprends mon souffle et mon équilibre, titubant sur un rocher qui vacille. Encore un effort et je serai libre, loin des charbons ardents, des noires anguilles, où je joue mon dernier jour de petite fille. Car pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompier, une tenue de saut. Les soldats de Napoléon, adieu les sales poupées, les jupes et les jupons. La perpétuelle punition, la cruelle contrefaçon, l'erreur de fabrication. Ne jamais sous-estimer l'ennemi. Jusque-là, c'était presque ridicule. Mais à l'instant, sur mon pied, j'ai senti s'agripper une froide mandibule. Ça me tire, ça m'entraîne, ça me mord. Et ça siffle et ça souffle en colère. Le pont craque, le pont grince et se tord. Et je glisse, je m'accroche, mais je perds. Un pied dans la braise rouge écarlate, un pied dans le fond de la désillusion. Je n'aurai pas mon sabre de pirate. C'est encore manqué pour être un garçon.
Les Cyprinettes vous guettent.
Les Cyprinettes vous guettent sur Radio Larzac. C'est le moment de briser les
clichés.
Donc dans cette petite rubrique, en fait, c'est l'instant un peu déconstruction où on va un peu casser tous ces clichés qui nous emmerdent, qui nous font chier au quotidien. Donc je déteste carrément, ça me fait chier. Alors qu'est-ce que vous détestez les filles ou les gars?
T'en vois un.
Enfin, non mais en fait c'est pas nous, c'est qu'on a recueilli des propos d'anonymes qui passaient sur le Larzac.
C'est vrai.
Voilà.
Ouais. Alors oui, exactement. C'est
donc on les écoute.
Des témoignages anonymes. Allons-y.
Je déteste quand je parle au mécanicien au garage à propos de ma voiture et qu'il ne me répond pas personnellement, mais au mec qui est à côté de moi.
Je déteste baisser les yeux, moi, en tant que femme, quand j'achète des capotes.
Moi, je déteste quand je vais justement dans un magasin de vente d'équipement auto et que je demande une clé à filtre et que le vendeur il me dit « Mais vous savez à quoi ça ressemble une clé à filtre ?» Et ma main dans ta gueule, tu veux que... Hein ?
Je déteste me sentir gaga devant un nouveau-né beaucoup plus que mon mec.
Je déteste quand il y a les démarcheurs qui appellent au téléphone en disant « Et votre mari, il est là ?»
Moi, je déteste les expressions du genre « Ah, il faut avoir des couilles pour faire ça !» Genre, il faut du courage. Mais moi, j'ai pas de couilles, j'ai des ovaires, ça veut dire que j'ai pas de courage ?
Je déteste en soirée quand on me dit « Ah, mais tu bois beaucoup, toi, pour une fille !» Eh ben ouais.
Moi, je déteste quand un mec m'ouvre la porte et attend que je passe. Je déteste ça, galanterie, je déteste.
Voilà, merde.
Chier. Oui, bah, toute manière, si les mecs, ils avaient leurs règles, les tampons seraient remboursés.
Et la pilule aussi.
Et la pilule.
Et les rasoirs. Et la cire d'épilation. Chez Yves Rocher, ils auraient moitié prix, eux. Et pas nous.
Le poil, quoi. Vive le poil, quoi.
Non, mais après, c'est comme tu veux, mais... Moi, je déteste qu'on regarde mes jambes parce que ça fait 3 cm. Voilà, je me sens jugée. Tous les étés, c'est pareil. Je mets des collants en été, moi. Et des collants en laine.
Mais grave, grave. Attends, mais moi, je sors avec la combi de ski, quoi.
Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Et ça y est, c'est la fin de cette première émission. En espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, c'était les Cyprinettes Vouguettes sur Radio Larzac.
N'hésitez pas, si vous désirez intervenir dans cette émission de façon anonyme ou pas, c'est possible. Vous pouvez nous joindre et nous laisser un petit mot sur le groupe Facebook des Cyprinettes Vouguettes. Merci à Marie-Jeanne à la technique. Merci à Radio
Merci
Larzac.
Merci Marie.
De rien, les filles.
Et à la prochaine.
Mais ouais.
Bisette des Cyprinettes.
Bisous, bisous.
C'est la fin, bim bam boum, whatever, whatever.
Ah oui.
Tintitat, titalali, tata. That's the thing I've been.